Bonsoir à chacune, à chacun. Je vous invite à faire une première lecture pour introduire un petit peu ce moment. Et je commencerai par surtout une question. Dieu s'intéresse-t-il à l'environnement? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Delabre, elle a du jardin, elle dit oui. Est-ce que Dieu s'intéresse à l'environnement? On va le voir dans Deutéronome chapitre 20 verset 19. Une toute petite lecture. Deutéronome 20, 19. Quelque chose de très très étonnant, Dieu va parler sur la nature à un moment où il donne des instructions pour le jour où on fait une guerre. C'est quand même un moment où on s'y attendrait pas. Deutéronome chapitre 20 et verset 19. Vous l'avez ? Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. C'est impressionnant cette affaire. Je sais pas si vous lisez de temps en temps le Deutéronome, c'est la loi de l'Éternel et la loi de Moïse. Moi en ce moment vraiment j'étudie ce livre et j'ai été étonné quand j'ai lu dans ce texte, c'était hier je crois. Voilà. Quand tu fais la guerre, moi, enfin pour moi, pendant la guerre, j'ai autre chose à penser qu'aux arbres. Vous voyez? Eh bien, Dieu dit, les arbres fruitiers, tu les touches pas. Ceux qui servent de nourriture, tu les touches pas. Tu t'en occupes pas. Tu les laisses là. Ils sont importants. Par contre, tu peux t'en nourrir, bien sûr. Dans Jonas, chapitre 4, verset 10. Je sais pas si vous aviez déjà fait attention à ce qu'on va lire encore. Mais moi, je suis tombé un petit peu bête, comme on dit. Jonas, chapitre 4. Et verset 10, regardez, on prend au verset 9, Dieu dit à Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas, vous en souvenez? C'est quoi cette affaire? Un truc pareil, assez impressionnant. Jonas, il refuse d'obéir à Dieu pour aller prévenir une ville qu'il faut qu'elle se repente. Il va à l'opposé de la direction que Dieu lui donne, il prend un bateau, il embarque dans un bateau, il l'emmène loin, et sur la mer, il y a une telle tempête, Dieu fait lever une tempête, les gens, ils se demandent, les gens du bateau, les marins, hein, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Chacun appelle son Dieu, et puis d'un coup, Jonas, il dit, écoutez, vous inquiétez pas, c'est ma faute, c'est Dieu qui fait chahuter un peu le bateau, jetez-moi à la mer, ça sera réglé, lui, il voulait mourir, hein. Plutôt que de servir au salut des gens. Et alors qu'ils le prennent, ils le jettent, il est avalé par un gros poisson, il dit un gros poisson, il n'a pas dit une baleine, un gros poisson, et alors qu'il est avalé, eh bien il va vivre 3 jours dans le poisson, il va être craché sur le bord de la ville, il va faire ce que Dieu lui demande, et puis à la fin, il va aller s'allonger, tout triste d'avoir servi au salut d'une ville. Et puis il va avoir un ricin, un arbre qui va pousser, et pour lui faire de l'ombre parce qu'il fait chaud. Dieu prend soin de lui, en une nuit, bof, le ricin il pousse. Et puis un ver vient, le pique, et puis l'arbre meurt, en une nuit aussi. Et donc il n'y a plus d'ombre. Et là encore Jonas s'irrite. Et regardez la parole de Dieu. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, oui, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et regardez. Et des animaux en grand nombre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. Sur le coup, on se dit, mais pourquoi Dieu? Non, les animaux, c'est pas grave. Mais en vrai, Dieu dit, mais même... Pourquoi j'aurais pas pitié d'une ville avec 120 000 personnes, ça je suis d'accord, mais aussi des animaux en grand nombre. Comme quoi Dieu s'intéresse à la faune et à la flore. Vous êtes d'accord avec moi? Il veut qu'on fasse attention à l'arbre, il veut qu'on fasse attention aux animaux, il dit les animaux. Et je vous lis un texte dans l'Apocalypse, il est dit « Le temps est venu de juger les morts, juste après, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » C'est écrit. Il est temps... Le temps est venu de juger les morts et de détruire ceux qui détruisent la terre. Moi, quand j'ai lu ces choses, je dis, ah bon, le Seigneur est écolo. Dieu s'intéresse à l'environnement. Et ce soir, j'aimerais parler de pollution. Vous êtes d'accord avec moi? La pollution. Ouh là là, qu'est-ce qui lui arrive à Jérémie? Il a de la fièvre. J'aimerais parler ce soir de pollution. Vous avez déjà entendu ce mot pollution? Vous savez ce que c'est, donc c'est bon, pas besoin de l'expliquer. La pollution. Qu'est-ce qu'il y a comme pollution dans notre monde? Il y a la pollution sonore. Vous avez entendu parler de la pollution sonore? C'est quoi? Ah, je vois des visages, non? C'est le bruit. Tout le bruit qui nous empêche de dormir quand on est fatigué, qui nous empêche d'être en paix, qui nous empêche aussi d'entendre les oiseaux, qui nous empêche d'entendre toute la nature. Le bruit, une pollution sonore. Et on en parle beaucoup dans les villes. Et peut-être ça vous est arrivé d'avoir un voisin qui met la musique à fond et vous avez du mal à dormir, ou qui parle fort, qui crie, etc. Et vous dites, ouh, j'aimerais bien que ce soit plus calme. Et d'un coup, vous pensez à la nature, vous aimeriez bien habiter en plein champ au milieu de nulle part? Non. Hein? Certains non, hein, quand même pas. Moi, je vous dis, ça me plaît et ça me va très très bien. Pollution sonore. Voilà. De quoi ça vient? Ben, des routes avec les automobiles, les motos, les trains, les avions, etc. Mais aussi le comportement des gens. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contents, quand ils construisent leur maison, de mettre une bonne isolation, parce que, au moins, le bruit ne rentre pas. Vous avez déjà vécu dans un appartement ou une maison à simple vitrage? Qui a déjà vécu? Moi, j'ai eu ça. Mon premier appartement, il y avait même des trous dans les fenêtres en bas. Non seulement le son passait, mais l'air, la pluie, tout ce que vous vouliez. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand d'un coup on passe au double vitrage? Il n'y a plus le même bruit, il y a quand même un sacré grand calme. Vous avez déjà vu, il y a une publicité qui passait un moment, la personne elle ouvre, ça fait « Ah Ah !» Enfin bref, pollution sonore. Deuxième pollution, pollution de l'air. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois ça pue, ça sent pas bon. La pollution de l'air à cause des déchets, des égouts, à cause aussi peut-être des voitures, tout le gaz qui est relâché, etc. Ça inclut donc les pollutions organiques, les déchets, pollutions de l'air moyen de chauffage. Quand on se chauffe, eh bien selon ce qu'on utilise, ça crée de la suie, ça crée de la poussière. Et nous, on a peut-être plus ça aujourd'hui, mais les cheminées à foyer ouvert, comme chez les Delabre, hein, eh bien, vous savez que pour la respiration, c'est pas du tout top. Et il y a une pollution de l'air, ça c'est la pollution intérieure, la cigarette, ça peut être des pollutions qu'on vit. Il y a la pollution extérieure, qui travaille dans les ressources, dans l'énergie durable, là. Il y en a pas des étudiants qui ont fait des études? Il y en a plein dans l'église qui font ça, des études sur les énergies renouvelables et non polluantes, ou peu polluantes. Les véhicules qui polluent, les bâtiments industriels, les feux de forêt, toutes ces choses sont des choses qui font qu'il y a une certaine pollution de l'air, et aujourd'hui on réalise que sur notre planète, eh bien, on est tous pollués, on a beau aller n'importe où, il y a une pollution de l'air. Vous iriez en plein milieu de l'océan, que l'air y est pollué. On retrouve des traces de la pollution que l'homme a fait subir à la nature. Elle a des conséquences incroyables. À l'OMS, le 25 mars 2014, donc il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours on va dire, ils estimaient à 7 millions les personnes qui mouraient prématurément à cause de la pollution de l'air. 7 millions de personnes qui perdent des années de vie à cause de la pollution de l'air de nos jours. 7 millions. En 2005, c'était estimé à 2 millions. De 2 millions, on passe à 7 millions en quelques années. Ça peut créer quoi? Des causes respiratoires, donc des problèmes respiratoires, des AVC, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. 50% de ces décès sont dans des endroits où il n'y a pas de médicaments pour les soigner. Et ça se voit beaucoup plus. Ça va même jusqu'à apporter des changements climatiques. La pollution de l'air va influencer le climat sur la planète. Vous avez entendu des gaz à effet de serre, parler des gaz à effet de serre? Nadège, est-ce que tu as entendu parler des gaz à effet de serre? Oui, tous, vous êtes d'accord avec moi? Pollution. Il y a une autre pollution, la pollution de l'eau. Ah, la pollution de l'eau. Tiens, j'ai donné quelques photos. Tu peux nous mettre une photo, t'appuies sur Hide, photo, la pollution de l'air. Vous voyez un petit peu? C'est pas très bon, la luminosité? Oui, parce que je suis devant. Je fais écran. Il y avait une femme en Chine qui se tenait comme ça, parce qu'en Chine, il y a une pollution incroyable à cause du nombre de personnes, du nombre de voitures. Juste après, une ville, on voit pas très bien, mais une ville, vous avez la montagne avec l'air pur à ce qui paraît en haut, la ville en bas et un nuage épais horrible au milieu. La pollution de l'eau, j'ai dit, tu peux mettre les sacs plastiques, vous avez vu? Ça se dégrade pas comme ça. Et dans l'eau, il y a des tortues qui confondent ça avec des méduses et qui s'étouffent et qui meurent. Ça influence sur tout l'écosystème de la planète. Et il expliquait que cette pollution de l'eau se fait par eh bien, tous les déchets de la ville, ce qu'on laisse dans les toilettes, ce qu'on laisse comme déchets, etc., qui part dans les égouts, qui va dans l'eau. Il y a aussi les hydrocarbures, le pétrole, il y a aussi les pesticides dans la culture intensive, l'agriculture intensive, etc. Et on le fait aussi par les détournements des fleuves, les mines qu'on surexploite en détruisant tout ce qu'il y a autour, les barrages, l'extraction des minéraux, la déforestation, le réchauffement, et tout cela agit sur l'eau. Et selon le CNRS, la moitié des fleuves et des lacs en Europe sont déclarés gravement pollués. La moitié des fleuves. Vous vous dites, oui, va, Jérémy, qu'est-ce qui lui arrive, c'est ça? La moitié des fleuves en Europe et en Amérique du Nord sont classés. Dans le monde, il ne reste plus que deux fleuves qui sont déclarés sains, l'Amazone et le Congo, sur tous les fleuves du monde entier. Et tous ces fleuves se déversent, bien entendu, dans la mer, et la mer n'a pas suffisamment d'eau pour diluer, dissoudre et compenser toute cette pollution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 20% de toutes les créatures aquatiques, les espèces aquatiques du monde, 20% ont disparu ou sont en voie de disparition. 20%. Parce que l'homme ne se préoccupe pas de la pollution, il consomme, on n'est pas veillant, eh bien on est en train de détruire ce que Dieu nous a donné pour y vivre bien. Et on est en train de polluer l'eau. En 2025, il estimait qu'on n'aura pas l'infrastructure nécessaire pour traiter toute l'eau dont on a besoin. En 2025, en fonction de la croissance du nombre de populations et de l'accroissement aussi de la consommation et de la pénurie d'eau, 2025, on commencera à manquer de l'eau qui nous est suffisante dans nos vies, à ce qui paraît. À moins qu'on trouve une solution en attendant, ou à moins qu'on prenne des résolutions sévères. Le sol, dernière pollution dont je parle. Le sol, la pollution du sol. J'ai une autre photo, peut-être tu peux la mettre. Ça, c'était l'eau. La pollution du sol. Vous avez déjà vu ça? Des reportages sur la pollution. Vous avez vu, il y a des îles entières, des îles, qui étaient un havre de paix où les animaux venaient, où on prend tous les déchets de nos villes, on les met sur des bateaux, on envoie tout ça sur ces îles, et on laisse les mouettes, les oiseaux comme cela, manger, et ça s'amasse. On fait brûler, ça pollue l'air, etc. C'est un cycle vicieux qui est là. Et le sol est de plus en plus pollué. Les divers polluants viennent la plupart du temps de l'industrie qui stocke ou qui déverse des déchets en masse et qui ont un impact sur l'écosystème naturel d'un lieu choisi ou d'un environnement. La pollution du sol. J'avais une photo, je ne l'ai pas mise. C'est bon, tu peux éteindre la photo. J'avais une photo qui montrait une batterie, par exemple, une batterie de voiture laissée dans la forêt, avec tout ce qu'il y a dedans, le plomb, etc., qui pollue pendant des années l'endroit où elle est laissée comme cela et où elle se désagrège. Ça va de la simple batterie jusqu'à l'uranium appauvri. Vous avez entendu parler des centrales nucléaires, de l'énergie nucléaire. Et tout cet uranium qui a été consommé, eh bien, faut bien le stocker une fois qu'il n'y a plus rien. Et il est fortement radioactif, et il est stocké dans des trous, dans des endroits où on trouve bien, dans des pays pauvres, où il y a besoin d'argent, et où les gens sont prêts à accepter, surtout les gouvernements, où ils sont prêts à accepter tous ces déchets, parce qu'il y a de l'argent qui est prêt à être donné derrière. L'huile qui est déversée, etc., qui souille tout. Toutes ces pollutions sont en train de détruire le sol eh bien, que nous avons, où nous marchons, où nous cultivons nos semences, etc. Ça donne des anomalies biologiques, des animaux qui naissent, des hommes et des femmes qui naissent avec des anomalies ou qui se transforment en anomalies. J'ai été en train de chercher tout ça, je regardais tout ce qui était, et puis je suis tombé sur l'affaire de Tchernobyl. Vous avez entendu parler de Tchernobyl, ou Fukushima? Hein, les centrales nucléaires qui ont eu des accidents. Tchernobyl, où il y a eu une explosion, etc. Et je regardais les conséquences. Rien qu'en finance. Est-ce que vous savez combien a coûté la catastrophe de Tchernobyl au monde entier? Une estimation. 1 000 milliards de dollars. Vous saviez combien le monde entier contient d'argent? 4,5 milliards de dollars. Un quart presque de l'argent de la planète est passé dans les conséquences juste de Tchernobyl. Je ne parle pas de Fukushima, de tout le reste. En soins qui ont dû être donnés, en travaux qui ont dû être faits, en conséquences sur des infrastructures, sur la surveillance, surtout, 1 000 milliards de dollars. C'est quelque chose de fou. Une centrale. qui explosait. Et aujourd'hui, 30 km, un cercle de 30 km où il est interdit d'aller, et un cercle de 100 km autour de la centrale où il ne fait pas bon vivre. Et je crois que c'est au-delà de cela, ça c'est juste les mesures qui ont été prises. Quelque chose de fou. Et l'homme, il se détruit à petit feu, il y pensait pas trop jusqu'à il y a peu de temps, et on commence à voir les gouvernements réfléchir, etc. Savez-vous, entre 2007 et 2013, combien d'argent juste l'Europe a investi dans le développement durable? 800 milliards. En 6 ans, 800 milliards, parce qu'on réalise que bientôt, il ne fera vraiment pas bon vivre sur la Terre si on ne prend pas des mesures strictes pour aider les gens qui veulent faire de l'agriculture biologique, pour aider ceux-ci, pour mettre en place des structures, pour prendre des règles. 800 milliards presque d'investis en 6 ans pour mettre en place des choses parce que le monde reconnaît que la planète va mal, qu'il y a une forte pollution et tout ça. Je ne parle pas de tous les autres chiffres, on pourrait passer toute la soirée, et ce n'est pas le but, vous l'avez bien compris. J'aimerais parler d'une pollution qui dépasse toutes ces pollutions-là, mais qui s'en rapproche vraiment et dont la Bible parle. De quelle pollution je parle ? De la pollution du cœur. Ça nous ferait bizarre, et ça vous ferait bizarre, de voir ce que j'ai vu tout à l'heure, les photos des enfants de Tchernobyl. Si vous voulez voir, vous allez sur Internet, ça va vous fendre le cœur. Des anomalies, des choses horribles. Mais il y a quelque chose d'encore plus horrible qui se fait dans nos cœurs. C'est l'affaire du péché et les conséquences du péché. Et ça, c'est une pollution qu'on ne peut pas maîtriser. Aujourd'hui, quand on marche dans la rue, on entend, on voit des choses qui polluent l'intérieur de nos âmes, l'intérieur de nos êtres. Et nos cœurs sont pollués, mais pire que tout ce qu'on a vu. Et s'il fallait mettre des photos de la pollution de notre cœur, qu'est-ce qu'on mettrait ? Vous mettriez quoi ? Des bouteilles, un amas d'ordures ? Vous mettriez quoi ? Vous savez qu'au pied du mont Golgotha, il y a une décharge à ciel ouvert. Et c'est horrible, ça pue. C'est horrible, horrible, horrible. Et c'est une belle image de ce que Jésus a fait. Sur la croix, il a expié tous les péchés, toutes les ordures du monde entier. Vraiment ça. Vous iriez sur le site de Golgotha, vous verriez en bas, eh bien, toute une décharge à ciel ouvert, où ça pue, où il y a toutes sortes de déchets, où tous les déchets de la ville sont amassés, et on appelle ça la géhenne. Et l'image de l'enfer, c'est un endroit où il y a une pollution horrible, la géhenne, avec un feu qui ne s'éteint point, comme dans cette décharge, au pied du mont Golgotha, où il y a un feu qui ne s'éteint jamais parce qu'on y apporte toujours, et de plus en plus d'ordures. Et où il y a une fumée noire qui sort, et où ça pue, c'est horrible. Et ça, c'est l'image du péché qui détruit et qui empoisonne, non pas juste l'extérieur, mais l'intérieur de l'homme. L'image de la pollution, c'est l'image du péché dans le cœur des hommes. Notre cœur est-il pollué ou pas ? Votre cœur est-il pollué ou pas ? Pollution sonore. Est-ce que vos oreilles trouvent du repos ou sont tout le temps agressées par des choses ? Il est dit dans Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Un peu plus loin, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Est-ce que j'espère en Dieu ? Parce que j'ai écouté sa parole avec les oreilles de mon cœur. Est-ce qu'il y a une pollution sonore dans mon cœur, toutes sortes de pensées qui me disent que Dieu, c'est pas pour moi, c'est pour les vieux papis, les vieilles mamies, les personnes âgées, et quand je serai âgé, je dirai, oh ça c'est pour les autres, les jeunes, c'est des histoires d'enfants, c'est des comptines pour enfants? Ou est-ce que non, je laisse le Seigneur parler à mon cœur? Dans Job chapitre 12, verset 11, il est dit, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Et vous savez qu'on aime bien manger, hein, les Français, on aime bien manger ce qui a bon goût. Et avec nos oreilles, on nourrit aussi notre âme. Et qu'est-ce que j'écoute ? Quelle musique j'écoute ? Quels sons j'écoute ? Quelles sont les pensées qui viennent aux oreilles de mon cœur ? Est-ce que je prête attention ? Est-ce que je laisse me polluer ? Est-ce que je me laisse me polluer par les choses du monde ? Ou est-ce que je me concentre, je garde mes pensées captives à ce que Dieu lui-même veut me dire ? L'air qui est dans mon cœur, y est-il respirable ? Il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Êtes-vous de la bonne odeur de Christ? Est-ce que vous avez cette bonne odeur de la connaissance de Dieu? Ou est-ce que vous pouvez dire « Non, Dieu, je ne le connais pas. Jésus, je ne sais pas qui c'est. Juste un gars qui est mort sur la croix. Juste quelqu'un, un enfant qui est né dans une crèche. Mais pour moi, ça s'arrête là. Noël, c'est le jour de son anniversaire. Je reçois des cadeaux. C'est le premier oublié. Vous avez vu un Noël? C'est son anniversaire et c'est à tous les autres qu'on fait des cadeaux. Et généralement, on ne pense pas à lui. C'est le plus absent de la soirée, hein, ou du réveillon. Est-ce que j'ai la bonne odeur de Christ? Qui peut dire ce soir vraiment « Non, je n'ai pas entendu parler de Jésus seulement. » Je n'ai pas entendu les comptines sur Jésus ou les chansons. Je connais Jésus-Christ personnellement. Je l'ai accepté comme sauveur, je l'ai accepté comme Seigneur. Alors on pourra dire, oui, j'ai la bonne odeur de Christ. Ailleurs, dans Philippiens 4, il est dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Philippiens 4, 18. L'histoire, c'est Paul qui est missionnaire et qui est aidé par une église financièrement qu'un homme, Épaphrodite, va lui apporter. Cette aide financière va lui être apportée par cet homme. Et Paul va dire, c'est comme un parfum de bonne odeur qui m'est venu. Est-ce qu'on a à cœur de prendre soin des autres? Est-ce que notre cœur est généreux? Est-ce que notre cœur est compatissant? Est-ce qu'on a vraiment de l'amour pour notre prochain ou est-ce qu'on est égoïste? Qu'est-ce qui se respire dans mon cœur? Quel air y est? Est-ce que mon cœur est pollué, mon air est pollué, ou est-ce que j'ai la bonne odeur, le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ? Qui a déjà eu dans son évier une odeur d'égout qui remontait? Moi, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter du desktop, là, je ne sais pas comment on dit. On va mettre le truc. Ça aussi, ça sent pas bon, mais au moins après, c'est réglé. Vous voyez? Quelle odeur sort de mon cœur? Vous savez que Dieu lit et voit dans nos cœurs. Est-ce qu'il voit un brouillard tout noir? Ou est-ce qu'il voit quelque chose de très clair, on voit au travers? Quelque chose qui sent bon? Est-ce qu'on a une bonne odeur? L'odeur du Seigneur Jésus-Christ, l'odeur de la connaissance de Dieu et de son Fils. L'eau dans mon cœur, est-ce qu'elle y est buvable? Tiens, vous allez dire, mais il est fou ce soir, Jérémy. Est-ce que l'eau dans mon cœur y est buvable? Il est dit dans Jacques chapitre 3, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alors dans mon cœur, est-ce que l'eau y est potable ou est-ce que l'eau y est polluée? Question. Comment ça se voit? Eh bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dira Luc. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et comment savoir si l'eau dans mon cœur est polluée ou est saine? Eh bien, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je bénis ou est-ce que je maudis? Est-ce que je dis du bien ou est-ce que je dis du mal sur les gens? Est-ce que j'aime bien les derniers potins? Raconter les dernières faiblesses, les derniers travers des gens? Est-ce que c'est ça qui me plaît? Ou est-ce que je préfère m'encourager des bonnes choses que les autres font et ont pu m'apporter? Les exemples que je peux tirer dans les situations des vies des uns des autres, du témoignage de mon frère, de ma sœur ou d'un ami. Est-ce que dans ma bouche, il y a des louanges à Dieu ou est-ce que je dis du mal sur Dieu? Ah, si Dieu existait! Ah, mais de toute façon, Dieu, c'est du n'importe quoi. Et des fois, on se moque de Dieu, on critique Dieu, comme eh bien ces brigands sur la croix qui se moquaient de Jésus et qui l'insultaient. Moi, j'ai vu des personnes qui ont insulté Dieu devant mes yeux parce que je leur parlais de l'amour de Dieu. Et d'un coup, on touche au cœur. Et quand on touche au cœur, il réagit, il y a quelque chose, il y a une source. Mais est-ce que c'est une source d'eau vive ou est-ce que c'est une source d'eau amère? Et ces gens, dès qu'on parle de Dieu, dès qu'on parle de l'amour de Dieu, on touche des fois à des choses qui font ressortir toute une amertume, une colère, une incompréhension. Et je me souviens d'un homme qui était saoul à 8h du matin. On s'est retrouvé dans une circonstance particulière au même endroit. Et j'ai dit, mais vous savez que Dieu vous aime. Et là, c'est comme si j'avais ouvert le bouchon d'un volcan. Il y a quelque chose qui est sorti, c'était pas une eau, c'était une lave, vous voyez, brûlante. Et puis, il a commencé à m'insulter, ton Dieu, si ça, il a insulté Dieu devant moi. Il a dit des choses obscènes. Et il m'a dit, je vais te casser la figure. J'ai dit, non, tu me casseras pas la figure. Mais si, je vais te la casser. Je dis, non, parce que Jésus t'aime. Et j'insistais, et puis il se mettait à pleurer. Si tu savais ce qui est arrivé à ma mère, si Dieu existait, et si tu savais ce qui s'est passé dans ma vie, ce qu'on m'a fait, si Dieu existait, je dis, mais c'est bien la preuve. Qu'il faut aller vers Dieu, puisque tout ça, ça arrive pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de l'horloger, et on veut une montre qui marche. On ne veut pas de Dieu, et on veut un monde en paix, un monde qui marche. Ce n'est pas possible. Il faut regarder le mode d'emploi pour savoir comment les choses marchent et pourquoi elles ont été faites. Eh bien, le mode d'emploi, c'est la Bible, pour le monde et pour notre vie. Et à nous, est-ce que l'eau dans mon cœur est pleine de ressentis, d'amertume ? Est-ce que mon cœur est plein de ces choses ? Ou est-ce qu'il est au contraire une source bénissante ? Est-ce que je dis du bien ? Est-ce que je loue Dieu ? Est-ce que j'adore Dieu ? Comme il le mérite puisqu'il est Dieu. Et lui, il a tout fait merveilleux et parfait. Ou est-ce qu'au contraire, je lève le poing contre Dieu et je maigris ? Est-ce que mes paroles sont bénédiction ou malédiction ? Et aussi, ai-je reçu l'Esprit de Dieu ? Quand on parle d'eau dans le cœur, il est aussi parlé de l'Esprit de Dieu, puisqu'il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, dans Jean 7, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu. Celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu, quand vous avez cru, dira Paul aux Éphésiens. Oh, oui, c'est aux Éphésiens. Est-ce qu'on a reçu le Saint-Esprit qui nous permet, même quand ça ne va pas, de nous réjouir, qui nous permet, même quand on est fatigué, eh bien, d'aller courageux et confiant dans l'avenir, parce que je sais qui est mon Dieu. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit qui me permet d'aimer, même quand la personne n'est pas aimable ? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit qui me permet d'être en paix, même quand tout s'écroule autour de moi ? Quatrièmement, pollution de la terre. Et dans mon cœur, la question que je laisse, c'est « La terre est-elle fertile et bonne ?» La terre de mon cœur. Est-ce qu'elle est fertile et bonne ou est-ce qu'elle est pleine de polluants, de nitrates, de pesticides et tout ce qu'on veut, au point que eh bien, rien n'y pousse de bon parce qu'elle est complètement polluée. Vous savez, Nathanaël Coudegou, stagiaire, qui est parti maintenant, il a acheté une maison à un moment, à Montrabé, un lotissement qui venait d'être construit, et quand il a voulu faire son petit potager, il m'a dit, j'étais tout content, je suis allé avec mon motoculteur qu'on m'a prêté, et j'ai commencé à vouloir labourer une parcelle du terrain, et quand j'ai fait ça, d'un coup j'ai vu une main. Oh, une main. C'était un gant, hein, juste un gant. C'était pas une main. Et il a vu un gant sortir, il dit, oh, un gant. Tiens, un ouvrier a perdu son gant. Et il continue, oh, une bouteille. Une bouteille. Et il continue toutes sortes de déchets, des restes de nourriture, du papier d'aluminium. Quand il prenait le sandwich, il mettait ça dans la terre. Et de toute façon, c'était dans la terre de Remblay. On mettait ça sous la maison ou autour. Là, le gazon allait y pousser, on verrait rien du tout. Et en remuant la terre, on voit que dedans, c'est tout pollué. Est-ce que dans mon cœur, la terre est polluée ou est-ce qu'elle est bonne ? Et là, j'aimerais lire avec vous, on termine avec ça, dans Luc. Luc chapitre 8, verset 5. Vous connaissez cette affaire ? Parabole du semeur. Luc, chapitre 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Vous avez vu cette parabole que Jésus utilise sur la terre, qui représente en fait un cœur qui peut être, eh bien, comme une terre tassée par la marche le long du chemin, piétinée, ou bien une terre qui est comme un roc dur, ou bien une terre qui est pleine d'épines, ou une bonne terre. Et chaque fois, ça représente une attitude du cœur, une situation dans laquelle, avec laquelle, un état d'esprit avec lequel j'écoute la parole de Dieu. Et peut-être ce soir, vous écoutez la parole de Dieu avec une fatigue physique. Pourtant, c'est jour férié. Mais il y a une fatigue peut-être sur vos corps, et c'est normal. Mais ça, c'est pas trop important. Mais peut-être qu'on écoute avec dédain. On dit, je vais à la réunion pour aller à la réunion, pour que le pasteur il me fasse pas de reproches. Ou je vais à la réunion parce que, eh bien, j'ai quelque chose à demander à la fin. Ou parce qu'on m'a invité, ou parce que si, ou parce que là, toutes les raisons peuvent être bonnes en soi. Mais est-ce que je viens ce soir avec un cœur qui est prêt à écouter la parole? Un cœur quoi? Honnête? Parce qu'il faut être vrai devant Dieu. Honnête parce qu'il faut reconnaître son état devant Dieu. Honnête, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas, mais qui est vrai, transparent et bon, c'est-à-dire qu'il cherche les bonnes choses. Je crois qu'un cœur bon, c'est qui veut le bien, qui aspire au bien, qui veut les bonnes choses, qui veut la vérité. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui me dit, moi je cherche et je veux la vérité. Il ne croit pas encore en Dieu, mais je suis sûr que s'il cherche de tout son cœur, il va la trouver, la vérité. Et moi je vais l'y aider de tout mon cœur, parce que je l'ai trouvé. Je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé ce soir, la vérité. Est-ce qu'on a un cœur honnête et bon? C'est ça, un cœur avec une terre potable, une terre fertile, une terre bonne, qui pourra, eh bien, faire germer de la semence. Est-ce que la terre de mon cœur est bonne, bien disposée? Est-ce que on va retenir la parole ou est-ce qu'on va l'oublier? Est-ce qu'on va se servir de ce qu'on a entendu en reconnaissant la faiblesse de celui qui la porte peut-être, mais la portée de celui qui l'a donnée, c'est-à-dire le Seigneur? Ou est-ce qu'on va dire, ouf, c'est pour les autres et c'est pas pour moi? Ce soir, c'était pour un tel, tiens. Ça aurait bien convenu à un tel, dommage qu'il n'était pas là. La parole, c'est pour moi d'abord. C'est pour moi. Est-ce que je vais retenir tout cela? Et cette parole, ce soir, je termine avec ça, un verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que je vais retenir cette parole-là? Dieu m'a tant aimé. Je suis aimé de Dieu, je n'en douterai pas, je la reçois avec honnêteté, je sais que je suis mauvais, je sais que je suis perdu, je sais que de moi-même je ne mérite rien, je sais qu'à l'intérieur il y a certaines pollutions encore ce soir dans mon cœur, peut-être. Oui, il y a des pensées qui n'honorent pas Dieu, il y a des choses que je fais qui sont d'une mauvaise odeur à Dieu, il y a des choses que je pense, des choses que je fais, des choses que je regarde, des choses que j'entends qui sont mauvaises pour moi. Et que je tolère dans ma vie. Et cette pollution, même si elle est petite, il ne faut pas la laisser grandir. Et Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jésus disait, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé chacune de nos vies, qu'il a fait en sorte que Jésus paye le prix pour effacer toutes nos fautes. Afin que si je crois, si je suis prêt à croire de tout mon cœur, si j'ai cette terre bien meuble, bien fertile pour accueillir la semence, si je crois cette parole, oui, Jésus m'a tant aimé qu'il a donné sa vie, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il m'aime au point de payer pour mes fautes. Il m'aime au point de verser son sang pour effacer toutes mes iniquités. Alors je suis prêt à croire. Et Dieu dit, oh je ne vais pas juste dépolluer comme le fait le monde, une dépollution, il dit je vais changer ton cœur. Ce cœur pollué, ce cœur sale, ce cœur souillé, je vais le changer, je vais t'en donner un neuf. J'ôte ce cœur de pierre, je te donne un cœur de chair. J'ôte ce cœur pollué, je te donne un cœur neuf, un cœur saint. Et l'enjeu que je te laisse, c'est de le garder saint. Garde ce cœur propre.
garde ta robe blanche, sanctifie ton cœur, sanctifie ton corps, ne te laisse pas polluer par les choses du monde. Je vais vous inviter à fermer vos yeux maintenant, et juste à ce qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette parole que Dieu a mise sur mon cœur, je le crois. Le monde est tellement pollué par les choses qu'il propose, et lui-même se pollue lui-même, et c'est un cercle vicieux. Et plus il y a de pollution, moins j'y vois. Plus il y a de pollution, moins j'entends les choses de Dieu. Plus il y a de pollution, et moins j'arrive à sentir la présence de Dieu. Plus il y a de pollution, et plus ce qui sort de mon cœur est mauvais, me détruit et détruit les autres et fait du mal. Et ce soir, il y a un enjeu, non seulement pour quelqu'un qui pourrait être nouveau, mais pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et si on est là ce soir, eh bien Dieu veut nous parler, parce que Dieu parle quand on vient l'écouter. Et peut-être quelqu'un dans son cœur a laissé une pollution venir, a laissé des choses du monde, des choses le souiller, polluer son cœur. Et peut-être même que quelque chose s'est installé, et de nous-mêmes on ne peut pas l'enlever, de nous-mêmes on ne sait pas comment faire. Et on a besoin de Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu restaurateur, pour qu'il vienne à nouveau dépolluer notre cœur, ôter ce cœur mauvais, mettre un nouveau cœur. Et si on a déjà reçu un cœur neuf avec Jésus-Christ en comprenant tout ce qu'il a fait, Dieu nous invite à venir encore vers lui et vers sa parole, à la croire, à la recevoir, pour que ce soit comme une eau qui coule sur nous et nous lave. Lave ce cœur qui a peut-être à nouveau été entaché. Et je ne connais pas la situation de chacun, je n'ai pas à la connaître. Dieu la connaît. Mais je sais comme dans mon cœur qu'on a tous besoin, eh bien que Dieu vienne laver nos pensées, nos cœurs, laver nos esprits, laver notre être tout entier encore. Parce que l'enjeu est grand. Le diable, c'est l'image de celui qui veut nous emmener vers la pollution. L'enfer, c'est l'image de la géhenne, c'est-à-dire une décharge publique où les ordures brûlent sans fin. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller dans une décharge. Je ne suis pas une ordure. Je ne suis pas fait pour l'ordure. Notre monde n'est pas fait pour les ordures et les poubelles. Notre monde, il est fait pour découvrir toutes les choses merveilleuses que Dieu a créées, les admirer et comprendre au travers d'elles que Dieu nous aime, qu'il est créateur et qu'il a des choses merveilleuses en réserve pour nous. Alors qu'allons-nous faire dans notre cœur déjà? Ce soir, qu'on puisse tous prendre la décision de dire: Seigneur, viens laver mon cœur. Viens laver mon cœur, viens laver mes pensées. Viens laver mon être tout entier, s'il te plaît, Seigneur. Toi qui as versé ton sang afin de laver de toute iniquité tous ceux qui croient, s'il te plaît, je veux croire ce soir qu'en toi, il y a une vie meilleure. Il y a quelque chose de bon. S'il te plaît, Seigneur, viens m'aider. Et le Seigneur le fera. Et que tous on puisse honorer Dieu dans notre manière de nous conduire sur cette terre, matériellement aussi. Et que Dieu soit béni en toutes choses. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour ces paroles qui nous interpellent et qui m'aident à comprendre que tout ce que tu m'as donné, c'est vraiment une grâce que j'ai de les avoir. Et je ne veux pas les gaspiller, je veux vraiment en tirer parti. Et la plus grande chose, la plus belle chose que tu nous aies donnée et que tu m'aies donnée, c'est la vie. Et je ne veux pas la polluer, la gâcher, la gaspiller. Je veux au contraire l'utiliser à bon escient, non seulement pour être heureux moi, pour vivre tranquille, mais surtout pour te glorifier et te servir. Aide-moi à ne pas perdre tout ce que tu m'as donné. Aide-moi à ne pas laisser polluer tout ce que tu m'as accordé dans ta grâce. Et donne-moi vraiment d'aider les autres aussi, avec des paroles justes, avec un modèle de vie. Eh bien, aider les autres à faire de même, à te glorifier dans tout leur comportement et surtout dans nos cœurs à chacun. Que ton nom soit béni encore pour ce message que tu nous donnes de partager ensemble ce soir. Et que ton esprit nous éclaire encore mieux sur tout ce que tu attends de nous. Et donne-nous de comprendre ta parole afin de mieux la mettre en pratique. Amen. Amen.